Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault, avec Laure Broulard, avec Marc Bisset aujourd'hui à la technique et à la une de notre émission qui est une émission en fait spéciale consacrée vraiment à une affaire hors norme, une affaire donc qui s'est déroulée sur l'île de la Réunion. C'est, disons, l'histoire d'un crime presque parfait dont l'auteur s'est en quelque sorte d'ailleurs dénoncé lui-même, on va en parler tout à l'heure. C'est une affaire aussi qui mélange le sexe et la magie noire et qui a été révélée par le journal de l'île de la Réunion le 31 juillet dernier. Ce jour-là, les proches d'un monsieur, d'un entrepreneur décédé à l'âge de 50 ans en novembre 2013 qui s'appelait Eric Samy, ses proches apprennent que cet homme n'est pas mort de mort naturelle comme il le croyait jusque-là, mais qu'il avait été empoisonné par un sorcier tamoul, lui-même amant de la veuve du décédé. On est en plein feuilleton télévisé. L'ex-épouse de la victime, qui s'appelle Marlène Ouledi, aurait commandité le meurtre pour toucher l'héritage et elle aurait promis au passage au sorcier près de 100 000 euros pour obtenir le poison. Mais celui-ci aurait été pris par le remords. Voyons, on est toujours presque dans une fiction télévisée. Pris par le remords, il s'accuse et il accuse évidemment anonymement, au cours d'un coup de téléphone anonyme, Marlène d'avoir empoisonné son mari avec un produit qu'il lui avait fourni. Alors, c'est donc une histoire absolument passionnante, hors norme. On n'en voit pas comme ça tous les jours. Et on a eu envie d'aller plus loin, de vous raconter tout ça en détail avec l'auteur de l'article, parce que faut dire que depuis un mois, on ne parle que de ça à l'île de la Réunion. L'auteur de cet article, il est en ligne avec nous, Jérôme Talpin, journaliste au journal de l'île de la Réunion et chef du service Faits divers. Bonjour Jérôme Talpin.
Bonjour Jacques.
Alors voilà, j'ai fait un résumé rapide, hein, évidemment, de l'histoire. Comment avez-vous été au courant de tout ça, vous ?
Ben nous avons commencé à nous occuper de l'affaire pendant des deux gardes à vue de Marlène Ouledi, qui est celle qui a commandité l'empoisonnement, et de François Charry, qui est le sorcier qui a composé le cocktail mortel.
Ouais. Oui, parce
et
que...
Nous avons donc eu l'information comme quoi il y avait une garde à vue dans une affaire très particulière et à partir de ce moment, nous avons enquêté avec des sources judiciaires et puis en rencontrant bien entendu la famille de la victime qui nous en a dit un petit peu plus sur ce drame.
Alors, on va reprendre en fait maintenant l'histoire chronologiquement, c'est-à-dire ce que vous avez appris à l'occasion de ces arrestations. En fait, c'est un peu la fin de l'histoire, en tout cas le début de l'affaire judiciaire, mais la fin de l'histoire pour les deux protagonistes dont on vient de parler. Tout commence donc dans une ville de l'île de la Réunion qui s'appelle Sainte-Marie, je crois, en novembre 2013.
Oui, alors Sainte-Marie, c'est juste à côté de Saint-Denis, qui est la préfecture de la Réunion. Ouais. Et l'histoire commence tragiquement avec la mort d'Eric Samy, dans la soirée du 20 novembre 2013. Eric Samy, c'est un entrepreneur en bâtiment et qui est spécialisé dans le pompage du béton liquide pour amener le béton sur des chantiers. Ouais. C'est quelqu'un qui travaille énormément, mais qui gagne très bien sa vie grâce à son camion et à un employé. Mmh. Et il commence même ses journées à 5h du matin. Donc le soir, il rentre, et évidemment, il est fatigué. Et là, pour coutume de boire une bière dans un snack bar qui est situé à côté de chez lui, je crois que c'est son cousin.
Ouais.
Mmh. Et puis ensuite, il rentre à son domicile, je pense qu'il dîne. Et vers 23h, son épouse, Marlène Ouledi, alerte un médecin de ville comme quoi son époux fait un malaise. Le médecin donc se rend au domicile et ne peut que constater le décès.
Oui, d'accord, crise cardiaque, ah. En fait, ça passe pour une crise cardiaque, quoi.
Oui, alors il conclut, évidemment, il conclut un arrêt cardiaque dans un. Il n'y a aucune trace suspecte apparente, hein, il n'y a pas de trace de coup, il n'y a pas de convulsion, il n'y a pas de trace quelconque sur le corps pu laisser un poison ou quelque chose comme ça. Oui. Donc le médecin délivre, la procédure courante, délivre un permis d'inhumer. Oui. Et donc monsieur Eric Sani est inhumé classiquement dans les jours qui viennent. Oui. Alors ce qu'on a appris en enquêtant, c'est qu'en fait Marlène Ouledi avait alerté la famille, elle comprenait pas qu'est-ce qui s'était passé, elle avait crié... qu'elle était très très peinée et elle comprenait pas. Elle a expliqué qu'il lui avait donné un Red Bull parce qu'elle trouvait qu'il allait pas bien.
Ouais, ouais.
Mais tout de suite les deux filles d'Eric Sani avec qui les relations n'étaient pas bonnes entre Marlène Ouledi et ses deux filles ont eu du mal à croire à ce qui s'était passé. À cette version du malaise. Elle n'était pas convaincue. Mmh. D'autant plus que dans les jours qui ont précédé les funérailles, elles ont trouvé que l'épouse n'était pas si triste que ça.
Elle avait
un côté détaché, ce qui a renforcé un petit peu les soupçons.
Alors, cela dit, ça a renforcé les soupçons. Ils se demandaient si la mort était si naturelle que ça. Mais le temps va passer et il faudra attendre le mois de février 2014 pour que un coup de fil, si j'ose dire, un coup de fil anonyme, mette vraiment le feu aux poudres. C'est ce que vous allez nous raconter dans un petit instant après une première pause.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Crime et magie noire à la une de l'heure du crime aujourd'hui à travers une affaire criminelle qui a éclaté à l'île de la Réunion. En tout cas, l'affaire a éclaté publiquement le 31 juillet dernier lorsque Jérôme Talpin, qui est mon invité, journaliste au journal de l'île de la Réunion et chef du service Faits divers, a publié un article pour révéler le contenu des gardes à vue, des aveux de deux personnes mises en examen depuis pour empoisonnement avec préméditation. C'est une affaire donc très grave, qu'on a commencé à raconter ensemble. Alors, c'est vrai que il y a donc un véritable coup de théâtre, Jérôme Talpin, parce que en février dernier, quelques mois après la mort de ce chef d'entreprise, un coup de fil qui est pris, je crois, par l'une des filles d'Eric Sami, la victime, va lui révéler que son ex-belle-mère, l'ex-épouse de son père, l'a empoisonné. Comment se passe vraiment ce coup de fil ?
Alors, c'est en février, effectivement. C'est la seconde fille de la victime, Anissa, qui a 17 ans, qui est lycéenne, qui reçoit l'appel téléphonique d'un homme. Elle ne reconnaît pas, la voix est dissimulée. Et cette voix lui annonce que son père n'est pas mort comme ça. Ça, c'est, je vous reproduis les propos qu'elle nous indiquait. La voix dit aussi « Marlène voulait en finir avec nous ». Marlène, c'est les... Oui. Elle dit une chose qui est très importante. Elle dit « Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça ». Évidemment, vous imaginez la réaction de cette jeune femme qui contacte tout de suite sa sœur aînée, Maëva. Et toutes les deux, le lendemain, se rendent à la gendarmerie de Sainte-Marie pour raconter ce qui s'est passé, ce coup de fil, et pour déposer plainte. Puisque ce coup de fil, pour elle, confirme tous les soupçons qu'elles avaient à l'encontre de Marlène Ouledi, avec qui, je le répète, les rapports n'étaient pas bons.
Donc là, en fait, Jérôme Talpin, on est à la suite de la plainte, au vrai début de l'enquête, si j'ose dire, puisqu'il y a une enquête préliminaire... qui est mise en œuvre, hein, c'est ça, et qui sera suivie d'une information judiciaire après.
Alors, ce qui est important, c'est que là, elle trouve, j'allais dire, une oreille attentive, parce que un gendarme, c'est son mérite, croit tout de suite à leur histoire, c'est-à-dire qu'il aurait pu dire oui, vous faites des idées, voilà, des coups de fil anonymes, ça existe, c'est comme on dit à la Réunion, c'est des ragots, ici on appelle ça des ladis lafés.
Il a dit lafé, absolument.
Voilà, ça existe. Donc, mais le gendarme, devant tous les faits qui sont énoncés par les deux jeunes femmes, pas tout de suite à cette histoire. Et lui, il décide d'enquêter. Mmh. Et il alerte le parquet de Saint-Denis. Et au parquet aussi, on juge tout de suite que l'affaire est sérieuse. Mmh. Et à partir de là, une enquête est déclenchée.
Et alors, on doit se poser la question, à qui profite le crime ? Il y a un héritage, il est riche, ce monsieur, quand même.
Alors, ce monsieur, oui, déjà, il gagne bien sa vie. Il gagne entre 12 et 15 000 euros par mois de par son travail, parce que c'est quelqu'un qui est très demandé, qui est un gros bosseur, qui est compétent, qui bosse même des fois le samedi et le dimanche matin. Donc c'est quelqu'un de très compétent. Et puis parallèlement, il a hérité de terres, de biens. Il a deux maisons, je crois. Il a aussi un appartement. Et puis il a des terres agricoles, pas très loin à Saint-Denis et à Sainte-Marie. Et des terres agricoles à Saint-Denis et à Sainte-Marie, ça vaut très cher, puisque c'est des terres qui potentiellement peuvent être déclassées et se transformer en zone construite.
Et qu'est-ce qui met la puce à l'oreille aux enquêteurs? Qu'est-ce qui leur permet de cibler particulièrement l'ex-épouse?
Alors, très vite, les deux filles, elles expliquent que Marlène nous l'a dit, est quelqu'un qui a un certain tempérament, qui avait pris l'ascendant sur son mari, qui a une façon de vivre qui détonne un peu, c'est-à-dire qu'elle aime bien l'argent, elle aime bien les grosses voitures, qu'elle a conservé son appartement à Saint-Denis, dans lequel elle vivait avant son mariage, et qu'elle voyage beaucoup. Donc il y a tout un faisceau d'indices pour les filles qui font que Marlène nous l'a dit, est plus quelqu'un qui est intéressé par l'argent de leur père que par son amour et ses sentiments. Mmh. Voilà. Et très vite, quand elle raconte tout ça aux gendarmes, d'après nos informations, les gendarmes ont mis en place des écoutes téléphoniques.
Sur
Marlène Olivier, elle a enquêté, elles ont regardé sur son téléphone. Et évidemment, il y a eu des conversations avec François Charry, qui est un prêtre tamoul,
C'est là qu'il apparaît.
Son ancien amant. C'était son ancien amant. Ouais.
C'est là qu'il apparaît dans l'histoire, donc.
C'est là qu'il apparaît dans l'histoire. Donc les enquêteurs voient que entendent, puisqu'il y a des écoutes téléphoniques, donc ils entendent des choses pas bizarres sur cette fameuse soirée du vin. Mmh. Ils continuent leur enquête et dans la soirée du vin, ils vont s'apercevoir aussi qu'il y a une quantité phénoménale de coups de fil entre Marlène Oulédi et François Charry. Et là, voilà, vous comprenez que les enquêteurs commencent à s'intéresser encore de plus près à cette fameuse Marlène Oulédi, qui est soupçonnée par les filles, et puis à François Charry, qui est un homme de 60 ans, retraité de la Drasse, exerce aussi ses compétences de sorcier.
Ouais. Alors c'est à partir des éléments qu'il recueille au cours de ses écoutes téléphoniques, enfin le travail, le béaba quoi, de l'enquête classique, que les gendarmes se rendent compte qu'ils sont certainement effectivement devant une réelle affaire criminelle et qu'on va finir par exhumer le corps.
Ça arrive le 18 juin, oui. Donc, entre-temps, un juge d'instruction a été saisi, puisque là, ça commence à être une affaire compliquée. Donc, la juge d'instruction décide d'exhumer le corps qui est enterré depuis quand même le 20 novembre et de procéder à une autopsie et à des prélèvements. Et ensuite, les prélèvements sont envoyés en métropole dans un laboratoire pour des analyses. Mmh. Et là, un toxicologue va découvrir un taux assez élevé d'isopropanol. Alors l'isopropanol, c'est un composé chimique qui est létal. Hein. Donc là, il n'y a plus de doute sur l'origine de la mort d'Éric Samy. Mmh. Évidemment, on a la preuve scientifique et médicale que ce monsieur n'est pas mort d'un malaise.
D'accord. Donc voilà, donc l'affaire est bouclée et les deux personnes sont mises en garde à vue. Il y a les aveux, on va revenir sur tout cela dans un instant. On va faire une pause et puis ensuite on va retrouver Maître Ariane Bouvet qui est l'avocate de François Charry, parce que depuis qu'ils ont été mis en garde à vue et qu'ils ont en quelque sorte avoué leur participation au crime, les versions des uns et des autres diffèrent gravement, parce que évidemment, Marlène dit mais non, c'est lui, c'est mon amant, il voulait se débarrasser de mon mari, c'est lui qui a décidé de le tuer. Et lui dit à peu près le contraire. Donc on va essayer de démêler les fils de ces aveux contradictoires dans un petit instant. Et puis on vous retrouve en direct de Saint-Denis de la Réunion.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Crime et magie noire et sorcellerie sur fond de dissension familiale, de volonté de capter un héritage. La justice est en train de chercher à démêler les fils de cette histoire ténébreuse pour évidemment évaluer les responsabilités des uns et des autres dans la mort de ce chef d'entreprise dont on a commencé à vous raconter l'histoire avec mon confrère Jérôme Talpin du journal de l'île de la Réunion, qu'on retrouvera dans quelques minutes. La responsable du meurtre est-elle Marlène ou Lady, donc l'ex-épouse de la victime qui aurait voulu hériter et qui aurait proposé une somme considérable en euros à un amant qui par ailleurs s'est révélé être un prêtre tamoul, François Charry, lui-même ne donne pas la même version, on en parlait tout à l'heure, et on va, pour faire la part des choses, donner la parole dans quelques instants à Maître Ariane Bouvet. Elle est avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion. Elle est l'avocate de François Charry. Mais auparavant, des témoignages qui ont été recueillis d'abord par la radio Freedom de l'île de la Réunion. Après l'éclatement de l'affaire, évidemment, tous les médias réunionnais sont emparés du dossier. Et Radio Freedom est allé recueillir d'abord des témoignages de proches de la victime le 31 juillet dernier, donc c'est-à-dire le jour où paraît dans le journal de l'île de la Réunion l'article de Jérôme Talpin qui révèle l'affaire. La journaliste de Radio Freedom, Stéphanie Serac, questionne le beau-frère de la victime, le beau-frère d'Éric Samy, qui s'appelle Evéanor.
À aucun moment, pendant toute la nuit, cette femme a assisté auprès de son mari. À aucun moment. Elle était dans sa chambre, en train de se coiffer, se faire belle. Et puis elle discutait avec les gens dehors, mais à aucun moment elle est venue aux côtés du corps.
C'est choquant, hein?
C'est choquant.
Ça vous a mis la puce un peu à l'oreille?
Tout de suite, j'ai vu. Moi, j'ai vu que c'était pas une mort naturelle. Quelqu'un qui sort du boulot, il arrive, il est en bonne santé, et il tombe sur son lit, il est mort. C'est difficile, hein? Mais elle a dit, elle a pris une boisson énergisante, et c'est ça. Mais c'était pas une boisson énergisante. C'est la preuve.
Voilà, donc le beau-frère d'Evéanor, témoin finalement de ce drame, témoin involontaire de ce drame. Et tout de suite un autre témoignage, mais qui a été recueilli par téléphone pour l'heure du crime par Laure Broulard de l'équipe de l'heure du crime. C'est Christian Dijoux que vous allez entendre. Christian Dijoux est un ami d'enfance de la victime, d'Éric Samy, et au cours de sa conversation avec Laure Broulard, il a révélé qu'il connaissait les tensions qui existaient dans le couple de Éric Samy et de Marlène Houlédi. Tension autour de questions d'héritage. Écoutez.
Non, elle a réussi à amadouer le pauvre Éric au dessin. Elle a réussi à monter son coup, à faire ce qu'elle voulait d'Éric, isolé. Mais par contre, par la suite, Éric lui disait que lui, son bien, c'est pour ses deux filles, pas pour elle. Il s'est marié, lui, mais son bien, c'est son bien personnel. Il a travaillé dans ses ports communs. Donc, tous ces biens reviennent à ses deux filles.
Elle demandait à Éric de changer le testament en sa faveur, c'est ça?
Ah oui, oui, elle a changé, justement. Elle a réussi à faire acte notarial, à pouvoir réussir à avoir au moins 50% des biens de fonds, des biens immobiliers, parce qu'Éric avait quand même des maisons, terrains, il avait encore d'autres projets.
Alors, voilà, donc des parties de témoignages pour compléter un petit peu le tableau de cette affaire compliquée. Maître Ariane Bouvet est en ligne depuis l'île de la Réunion. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Bonjour. Vous êtes l'avocate de François Charry. Alors, François Charry, c'est ce prêtre tamoul, suspecté de sorcellerie, qui aurait fourni le poison, qui aurait permis à Marlène ou Lady de se débarrasser de son mari. Lui ne raconte pas du tout la même histoire.
Je vais rétablir quelques informations. Puisque M. Charry n'est pas un prêtre en tant que tel. M. Charry est quelqu'un qui pratique une certaine religion, mais il n'est pas considéré comme un prêtre. Il a certaines croyances qui sont typiques à l'île de la Réunion.
Oui. Il se définit, je crois, comme tisaneur, non ? C'est un terme qu'on utilise à l'île de la Réunion.
C'est quelqu'un qui fait des prières pour les gens. C'est quelqu'un qui, effectivement, a des croyances, qui fait quelques rituels. Donc, c'est pour ça aussi que ça lui vaut le surnom de sorcier. Mmh. Et puis, effectivement, il n'a pas du tout la même version que Madame Moulédi, dans la mesure où M. Charry, lui, a reconnu une partie de sa responsabilité et une partie des faits. Oui. C'est lui qui est à l'origine d'ailleurs de la découverte de toute l'enquête.
Alors c'est justement, prenons le temps, maître. Il a expliqué pourquoi il a, parce qu'en quelque sorte, en dénonçant Marlène, il se dénonçait lui-même. Il savait qu'il allait avoir des problèmes. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour il a soulevé son téléphone pour donner l'information à la famille?
Alors ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il y a eu des soupçons que les faits allaient peut-être se reproduire sur peut-être d'autres membres de la famille. Et M. Charry n'a pas voulu que ça se reproduise et a passé des appels anonymes aux filles de la victime pour leur expliquer que Madame Moulédi n'était pas la personne qu'elle faisait entendre, ouais, et qu'elle était à l'origine du décès de son mari.
D'accord, donc lui pensait qu'elle allait récidiver, qu'il y aurait d'autres morts, et au passage, il faut dire que je crois que c'est un père de 6 enfants.
11 enfants,
bon d'accord, je voyais, j'avais lu 6, et donc il a dû, en tant que père, se dire si je peux éviter là un nouveau drame, faisons-le. Donc ça atténue en quelque sorte un peu sa responsabilité, mais sur les faits même, il a fourni ou pas un poison à Marlène ou Lady?
Alors, M. Charry a, depuis le début de cette procédure, expliqué qu'il a été contacté par Madame Moulédi pour la fabrication d'un produit qui aurait pour but de tuer M. Samy. Maintenant, est-ce que c'est effectivement la potion qui a été donnée par M. Charry qui est à l'origine du décès de la victime? Ça, c'est le cours de l'enquête qui le dira.
D'accord. Et la situation juridique donc de votre client, pour l'instant, il est incarcéré?
Il est en détention provisoire, tout à fait.
Et vous pensez que l'enquête va durer, l'instruction devrait durer encore de nombreuses semaines ou de nombreux mois?
Je pense qu'on peut effectivement miser sur quelques mois. Moi, je pense 6 mois minimum. C'est quand même une instruction criminelle. Il y a beaucoup de témoignages à récolter. Il y a beaucoup d'analyses à effectuer. Donc moi, je pense qu'effectivement, pour minimum 6 mois.
Écoutez, je vous remercie beaucoup, maître, en tout cas, d'avoir pu exprimer votre point de vue à propos de François Charry, parce que c'est vrai que dans des histoires comme ça, il est très difficile de faire la part des choses. C'est la tâche de la justice, évidemment, de le faire, et qui le fera. Et lui, se présentera devant cette justice avec votre aide. Merci infiniment, maître.
De rien.
Dans un instant, après une nouvelle pause, nous retrouvons l'île de la Réunion avec mon confrère Jérôme Talpin.
L'heure du crime sur RTL.
Cette ténébreuse affaire de l'île de la Réunion se complique presque, Jérôme Talpin, après avoir entendu ce que déclarait à l'instant l'avocate de François Charry, maître Ariane Bouvet. Ça n'est pas du tout, évidemment, la version que donnent à la fois les enquêteurs et Marlène ou Lady.
Ah oui, les versions des deux mises en examen sont diverses totalement. François Charry, il faut savoir, quand il appelle anonymement, lui, il ne veut pas dénoncer le crime. Il ne veut pas se dénoncer. Parce qu'il est convaincu qu'il est protégé et qu'il ne sera jamais découvert. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme il est sorcier, il fait ce qu'on appelle un travail. Et il a pris. Et il est convaincu que ce travail les protégerait et lui épargnerait des ennuis judiciaires.
D'accord.
À tel point que lorsqu'il est interpellé, il est totalement surpris. Il est, d'après ce que j'ai appris, il est complètement désarmé, il ne comprend pas ce qui lui arrive.
Ouais.
Et assez vite, il raconte ce qui pourrait être, une fois que l'affaire sera jugée, des aveux. En tout cas, il dit beaucoup de choses. Et il est convaincu qu'il ressortira libre de la garde à vue, parce qu'à la fois il est protégé, mais aussi parce qu'il a raconté sa vérité et qu'il a donné beaucoup de détails sur cette affaire.
D'accord.
Et à tel point que lorsqu'il est présenté devant le juge d'instruction, il est ensuite conduit devant ce qu'on appelle le juge des libertés pour statuer sur sa détention provisoire. Et là, son avocate a demandé à ce qu'il soit placé sous bracelet électronique. Bien qu'on soit quand même dans une affaire criminelle de plus grave, puisqu'il s'agit d'empoisonnement, qui est puni quand même par la réclusion criminelle à perpétuité, donc c'est considéré par la justice française comme une des crimes les plus graves. Et le parquet de Saint-Denis s'est un peu offusqué de cette demande de placement sous contrôle judiciaire. Et à tel point que le procureur l'a baptisé l'empoisonneur citoyen. C'est-à-dire, j'empoisonne les gens, mais finalement, je dénonce les faits auxquels j'ai participé.
D'accord. Alors, lui dit quand même, dans ses aveux, enfin, il dit bien qu'il a fourni des produits ou pas, notamment ce poison.
Alors oui, ce qui est intéressant, c'est que lui, il raconte quand même, il y a un détail qui interpelle, il dit que Marlène Ouledieu lui a demandé de lui fabriquer une décoction un an auparavant, et que lui lui a fourni plusieurs fois des potions, et que tout ça a duré quand même un an, et qu'il y a eu plusieurs tentatives. Ça, c'est quand même assez marquant.
Ouais. Et alors, pardonnez-moi.
Ça n'a pas marché du premier coup.
Ouais, Jérôme, plusieurs tentatives sur le même homme. Elle n'a pas fait. C'est pas une tueuse en série, d'après lui.
Ah, écoutez, ça, la suite de l'affaire le dira. Mais en tout cas, concernant Éric Samy, ce qu'il faut savoir, c'est que les tentatives d'empoisonnement ont débuté un an auparavant et que à plusieurs reprises, ça n'a pas fonctionné, en tout
d'accord,
cas.
D'accord.
C'est la version de M. Charry.
Oui.
Et M. Charry dit que Marlène Ouledi, en échange, lui avait promis 100 000 euros. Alors qu'elle comptait hériter d'au moins 1,2 million, puisque c'est la valeur du patrimoine d'Éric Samy, la valeur estimée du patrimoine.
D'accord. Et alors, elle, pardonnez-moi, parce que je vois le temps qui tourne, il faudrait dire quelle est sa version à elle. Elle dit que c'est une initiative de Charry, le meurtre de son ex-mari.
Alors, elle dit exactement ça. Elle dit que, en fait, elle a demandé à son ami François Charry, à son ex-amant, avec lequel elle faisait pas mal de prières aussi, elle lui a demandé une potion contre la toux, car elle trouvait que son époux avait des problèmes respiratoires.
Ah, oui.
Et elle dit ne pas comprendre pourquoi ce dernier lui a donné un poison.
Ouais.
Ou alors, elle émet une autre hypothèse, c'est que, en fait, M. Charry voulait la reconquérir pour lui tout seul, puisque en se débarrassant de l'époux, il pourrait la consoler.
Donc là, on a à peu près les axes de ce qui va se dire devant la justice et peut-être au procès, quoi. Chacun va se rejeter en quelque sorte la faute suprême sur l'autre, quoi. Va rejeter sur l'autre le véritable projet d'assassinat. Hein. C'est un peu comme ça que ça se dessine. Il y a encore autre chose. C'est une histoire incroyablement riche. Vous m'avez dit hors micro, Jérôme Talpin, que lui-même, le sorcier, appelons-le comme ça, ancien amant de Marlène, est aussi l'amant de quelqu'un qui est très proche d'elle.
Alors oui, il y a eu... on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas eu un seul coup de fil anonyme qui a été donné aux filles d'Éric Samy, mais qu'il y en a eu au moins deux. Et le deuxième, il a été commis par la demi-sœur de Marlène Ouledi, qui est devenue la maîtresse de François Charry.
Une histoire de famille incroyable, absolument incroyable. Dites-moi, dans votre mémoire de journaliste et de spécialiste de faits divers, parce que je rappelle que vous dirigez le service faits divers du GIR, donc le journal de l'île de la Réunion, ce genre d'histoire est quand même assez rare, non?
Ah oui, totalement. C'est inédit. C'est quand même une histoire qui met à la fois la religion, qui met l'argent, les sentiments, l'héritage, le sexe aussi, puisque c'est quand même le fond de l'affaire aussi. C'est une histoire assez exceptionnelle à La Réunion et à l'échelle de la métropole, je pense.
Alors, je vous propose une chose, Jérôme Talpin, on va faire une dernière pause et on va retrouver, après cette pause, Jean-Marie Pelt, qui sera en ligne avec moi, biologiste, botaniste, écologue, qui est notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle « Carnet de voyage d'un botaniste », où qui est publié chez Fayard, qui est sorti chez Fayard l'an dernier. Et dans ce livre, Jean-Marie Pelt parle justement de ces médecins aux pieds nus ou de ces sorciers et autres tisaneurs, comme on dit, à La Réunion. Je lui ai donc demandé son avis sur l'affaire criminelle qui nous occupe. Et puis, je vous prendrai quelques instants tout de suite après son témoignage pour avoir votre avis personnel. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour.
Alors nous sommes, nous, évidemment au cœur d'une affaire criminelle, mais vous êtes en pays de connaissance parce que vous avez d'ailleurs consacré un certain nombre de recherches et de livres sur ces plantes utilisées par des sorciers un petit peu sur tous les continents. Qu'est-ce qu'évoque pour vous l'histoire particulière qui vient de se dérouler à l'île de La Réunion ?
Bah écoutez, pour ce que j'en sais, il y a donc suspicion d'un empoisonnement par un tisaneur, c'est comme ça qu'on appelle les spécialistes des plantes médicinales dans l'île, qui dit de lui qu'il est sorcier et qu'il travaille pour le bien, n'est-ce pas ? C'est oui. Ce qu'il a dit à la police.
Oui.
Bon, moi je ne sais pas évidemment comment et pourquoi il travaille, mais c'est vrai que vous avez raison de le dire, dans toutes les régions du monde, il y a une utilisation criminelle potentielle de plantes très toxiques. Il n'y a pas une seule flore dans le monde entier qui serait totalement dénuée de plantes toxiques.
Alors, Jean-Marie Pelt, évidemment, pour ne pas donner de mauvaises idées, personne n'a publié pour l'instant le nom de la plante, et en l'occurrence d'ailleurs de la fleur qui semble avoir été utilisée par ce sorcier, mais on cite le produit actif, isopropanol, ça vous dit quelque chose ?
Oui, ça me dit quelque chose. Je trouve très, très singulier qu'il puisse y avoir de l'isopropanol en forte dose, donc en dose toxique, dans une plante. L'isopropanol est un produit de synthèse qui est un désinfectant, un décapant, un dégraissant, un anti-infectieux d'utilisation courante pour, par exemple, se protéger ou protéger les malades lorsqu'on est infirmier de la transmission de microbes. Alors j'étais un peu surpris de voir apparaître brusquement l'isopropanol là. C'est un produit toxique, ça c'est tout à fait vrai, mais j'ai beaucoup de mal à croire qu'il est présent en grosse quantité dans une plante, et si ça devait se confirmer, ce serait à mes yeux une découverte importante.
Alors évidemment les toxicologues sont toujours très curieux de savoir quelles plantes sont utilisées par les tisaneurs, comme vous les appelez. En l'occurrence, est-ce qu'il serait possible qu'une connaissance, j'allais dire, culturelle, transmise comme ça de bouche à oreille, puisse déboucher sur un produit qui ne serait pas repérable par les analystes toxicologiques modernes ?
Oui, parce que dans les plantes toxiques, il y a souvent plusieurs substances toxiques, il y a des substances extrêmement variables selon les plantes elles-mêmes, et ça supposerait pour les experts une connaissance très approfondie des plantes toxiques d'une région, encore que dans le cas présent on dit qu'il est d'origine tamoule, l'assassin présumé, l'empoisonneur présumé. Alors là, nous sommes dans une autre culture. Nous ne sommes plus dans la culture des Réunionnais. Nous sommes dans une culture importée. D'ailleurs, nos îles, La Réunion en particulier, est très diverse en ce qui concerne l'origine des populations qui l'habitent.
Oui, les Tamouls, c'est la côte est, je crois, de l'Inde.
Absolument, oui. Absolument. Oui. la flore n'est pas la même. Mmh. Donc on peut imaginer aussi l'utilisation de plantes venant de là. Alors j'ai lu dans la presse que le sorcier suspecte, qui se dit tisaneur, il a tout à fait tort s'il est sorcier de se dire tisaneur. Ouais. Parce que les tisaneurs sont des gens qui soignent les malades, mmh, selon des pratiques traditionnelles.
Ouais.
Là, il fait des prières. On a trouvé chez lui des autels. Bon, c'est une culture qui est liée directement ou indirectement à l'hindouisme, donc c'est pas tout à fait la culture dominante de la Réunion.
Enfin, cette histoire est effectivement là pour nous rappeler également qu'il faut ne pas ingérer n'importe quoi et se méfier effectivement dans certains endroits du monde de ceux qui sont réputés faire le bien et qui quelquefois font très mal. Voilà la conversation donc que j'ai enregistrée hier avec donc Jean-Marie Pelt, biologiste, botaniste, écologue très 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 connu. Vous avez entendu Jérôme Talpin, l'étonnement de Jean-Marie Pelt sur la présence de l'isopropanol.
Oui, tout à fait, mais il a tort et raison parce que en fait l'isopropanol c'est ce qui a été retrouvé au moment de l'analyse. Ensuite, il y a eu les déclarations de M. Chary. Oui. Et M. Chary, lui, il explique comment il a composé ce cocktail et il donne le nom d'une plante, évidemment qu'on ne citera pas.
Oui, bien sûr.
Et moi, ce que j'ai appris, c'est que cette plante intéresserait très fortement les experts toxicologues qui sont mandatés par la justice pour donner leur éclairage. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, apparemment, ils n'en avaient jamais entendu parler, et ça pourrait être une grande découverte.
Ben voilà, donc là, vous rejoignez ce que disait Jean-Marie Pelt il y a un instant, peut-être derrière cette affaire criminelle.
Il faut préciser aussi, oui, que quand il parle de religion tamoule, oui, la religion tamoule, c'est une des grandes composantes de la population réunionnaise.
Oui, oui, absolument, lui, oui, bien sûr.
C'est quelqu'un, oui, qui est né à, oui, la Réunion, oui, et c'est quelqu'un qui a utilisé que des plantes locales.
Locales, absolument. Écoutez, Jérôme Talpin, on ne peut pas aller plus loin maintenant, mais c'est absolument passionnant. Je vous remercie beaucoup. Vous allez évidemment suivre pour votre journal, le journal de l'île de la Réunion, les prochains épisodes, si j'ose dire, de cette affaire. On se retrouvera peut-être un jour, hein, en tout cas pour une autre affaire. On se permettra peut-être de vous rappeler parce que vous êtes, comme nous, passionné de faits divers. Merci beaucoup.